Je vais maintenant vous proposer le schéma d'un autodiagnostic. Voyons d'abord une phase préliminaire qui est définir la structure. Dans cet autodiagnostic, je vais vous proposer et je vais vous guider pour analyser le fonctionnement d'une organisation. Il s'agit donc d'abord de choisir l'organisation, la structure, que vous allez analyser. Donc je vous propose d'abord de définir ce que Eric Berne appelle la frontière majeure externe, c'est-à-dire de définir quelles sont les limites de la structure pour laquelle vous voulez réfléchir à la construction ou à la consolidation d'une vision globale. Alors maintenant que cette étape préliminaire est faite, nous pouvons passer à la phase 1 qui est l'analyse de l'environnement. La première action consiste à déterminer chacun des éléments composant l'environnement de l'organisation à étudier. Donc ce que je vous suggère de faire, c'est de lister chacun des éléments qui composent cet environnement. Puis je vous propose de passer à l'action 2 qui est identifier les zones d'incidence. Alors qu'est-ce que j'entends par zone d'incidence? Pour moi, c'est une composante de l'élément d'environnement qui peut avoir une incidence sur la structure. Donc parmi tous les éléments d'environnement, c'est quelles sont les zones, quels sont les éléments qui peuvent avoir, si eux ont une modification, une incidence sur la structure. Par exemple, imaginons que la structure soit une entreprise d'installation de chauffage électrique. Des éléments qui sont des zones d'incidence, ça peut être par exemple la santé des ménages. Ça peut être aussi le type d'habitat que les particuliers recherchent. Ça peut être la sensibilité aux économies d'énergie. Ça peut être la montée des aspirations à une démarche écologique. Ça peut être aussi une innovation technologique. Il s'agit donc pour chacun des éléments de l'environnement, de votre structure, d'identifier quelles peuvent être les zones qui, si elles ont une modification, peuvent avoir une incidence sur votre structure. Action 3, déterminer les zones stratégiques. Parmi l'ensemble des zones d'incidence que vous avez identifiées, l'idée c'est que vous déterminiez celles qui sont stratégiques. Alors je vais vous donner ma définition d'une zone stratégique. C'est une zone qui, si elle change, risque d'empêcher la structure d'atteindre ses objectifs généraux, voire de mettre en cause son existence. S'il y a un changement important dans une zone stratégique pour votre structure, cette dernière devra modifier un élément constituant sa vision globale, voire plusieurs d'entre eux. Si elle ne le fait pas, elle risque à terme de disparaître. Je vais vous donner quelques exemples de ce que j'appelle les éléments stratégiques. Par exemple, une innovation technologique. Les fabricants de composants électroniques sont en train de mettre au point une puce qui sera capable de faire une analyse très précise et quasi instantanée de tout prélèvement. Cela peut conduire dans les années à venir au fait que l'ensemble des médecins s'équipent de ce matériel. Et si cette évolution se confirme, elle est de nature à priver les laboratoires d'analyse médicale d'une part considérable de leur activité actuelle. Cela, pour un laboratoire d'analyse médicale, c'est un élément stratégique. Un autre exemple, concernant des modifications de climat. Les modifications des conditions climatiques, et notamment d'enneigement, peuvent obliger les stations de ski de moyenne montagne à revoir totalement leurs objectifs généraux, ainsi même que la vision qu'elles ont de leur métier, de leur fonction et de leur vocation. Un troisième exemple, concernant une décision politique. Une modification des taxes sur les carburants peut avoir des incidences très importantes sur les constructeurs automobiles, sur les distributeurs de carburant, les transporteurs, la SNCF. Donc pour toutes ces organisations, cette modification qui est de nature de décision politique peut avoir des incidences très importantes. Quatrième action, définir les modalités de veille. Les éléments de l'environnement sont par nature sujets à évolution. La structure doit donc se doter des moyens nécessaires pour assurer une veille de chaque élément constituant son environnement. Donc voilà les points que je vous suggère de définir. D'abord, le quoi. Il s'agit de lister les éléments dont il est nécessaire d'assurer la veille. Et il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est identifier chaque élément. dont il est nécessaire d'assurer la veille, et pour chacun de ces éléments, assurer, déterminer quels sont les points de veille. Un exemple, un élément de notre environnement, par exemple notre concurrent le plus direct. Ça, c'est un point de veille à avoir. Maintenant, quels sont les points particuliers de veille concernant ce concurrent ? Ça peut être par exemple l'évolution de ses prix de vente, des produits qu'il vend, de ses fournisseurs, des alliances qu'il passe avec d'autres confrères, de l'ambiance générale dans cette société, notamment le climat social. Voilà quelques exemples de points de veille. Une fois qu'on a défini le quoi, il est nécessaire de définir le comment. Il s'agit pour chaque point de veille de déterminer quelles modalités vont être utilisées pour obtenir les informations nécessaires à cette veille. Cela peut par exemple être la participation à des salons professionnels ou à des congrès, l'appartenance à un syndicat professionnel, l'utilisation de réseaux relationnels, voire privés, le test de produits concurrents, etc. Puis, il est nécessaire de formaliser le quand. Pour chaque point, il s'agit de déterminer la fréquence de contrôle ainsi que d'éventuelles périodes particulièrement propices. Après, il est souhaitable de définir le qui. Il s'agit de définir qui est la personne responsable de la collecte de ces informations. Et là, si vous êtes le leader, il y a une règle que je vous suggère vivement de respecter. Le leader de la structure ne doit jamais déléguer la veille sur les éléments stratégiques. Celui que j'appelle le leader, c'est la personne qui définit les objectifs généraux de la structure concernée. Si par exemple, vous êtes informé qu'une innovation technologique risque de bouleverser complètement le marché sur lequel votre structure réalise une part conséquente de son chiffre d'affaires, vous devez personnellement vous investir pour vous tenir informé de l'évolution de cette innovation technologique. Vous pouvez tout à fait vous faire accompagner d'experts techniques, mais il me paraît déterminant que vous puissiez vous faire votre avis directement par vous-même. Et si vous participez à une présentation faite par des distributeurs de cette nouvelle technologie, même si vous n'êtes pas un expert en la matière, vous allez pouvoir sentir, renifler à qui vous avez affaire et donc, au-delà de l'intérêt de l'innovation technique, détecter de façon parfois intuitive les opportunités ou les risques éventuels. Autre élément à intégrer, le feedback. Vous devez déterminer comment les informations seront remontées au leader. Le leader, en effet, ne peut pas tout faire et il a même parfois l'obligation de confier à d'autres, en interne ou externe à la structure, la mission de veille sur certains éléments de l'environnement. Il doit le faire notamment dans le cas où la structure est importante, dans le cas où l'environnement est complexe et constitué de multiples acteurs, éventuellement aussi dans le cas où lui-même, le leader, est très connu dans un environnement et il ne peut donc pas bénéficier de la même qualité d'information que s'il pouvait, comme on dit, passer incognito. Cependant, il doit impérativement construire avec les personnes auxquelles il a délégué la veille de chaque élément des modalités de feedback des informations recueillies. Et ces modalités de feedback doivent elles aussi comprendre les réponses aux questions quoi, comment, quand, qui, où, etc. Après l'étape 4, qui est de déterminer les modalités de veille, une étape 5 qui est analyse des tendances. Il s'agit d'analyser les évolutions de l'environnement et de tenter de déterminer deux types d'évolutions. Les opportunités et les contraintes. Et il me paraît utile de classer chacune dans l'une des trois catégories suivantes, tendance sûre, tendance probable, tendance possible. Nous pouvons passer maintenant à la phase 2 qui est déterminer les incidences sur les objectifs généraux. Alors le travail sur la phase 1 peut vous conduire à modifier votre vision de l'environnement de votre structure ou peut vous conduire à l'affiner. Et cela peut avoir comme conséquence de vous conduire à considérer les objectifs généraux de cette structure de façon différente. Vous pouvez par exemple être conduit à modifier tout ou partie de ces objectifs, à définir parallèlement un objectif de substitution, si par exemple un élément de l'environnement considéré comme possible ou probable devient certain, Cela peut vous conduire aussi à construire un objectif de repli. Phase 3, déterminer les incidences sur le métier. De la même façon, vous pouvez être amené à considérer la vision que vous avez du métier d'une façon différente. Quelques exemples que j'ai trouvés chez certains de mes clients. Un fournisseur d'emballage qui, au-delà de son métier de fabricant, intègre le stockage des produits finis pour ses clients. Donc, il ne se contente plus de fabriquer des emballages en fonction des commandes de ses clients, il en assure maintenant le stockage et il livre en fonction des besoins spécifiques de ces derniers. Un autre exemple, un fournisseur travaillant pour la grande distribution qui passe d'un métier de fabricant de produits à celui de distributeur. Cela le conduit par exemple à gérer directement des surfaces de linéaire dans les magasins de ses clients. Voyons maintenant la phase 4, déterminer les incidences sur les valeurs. Alors concernant les valeurs morales, elles peuvent rester les mêmes, mais certaines peuvent prendre une importance nouvelle. Concernant les valeurs d'excellence, la question principale est la suivante. Eu égard à l'analyse de l'environnement, eu égard à nos objectifs généraux et à la vision de notre métier, quelles sont les valeurs d'excellence que nous devons développer et qui vont devenir stratégiques ? Alors, je vais vous donner ma définition d'une valeur stratégique, qui est une définition cousine de celle des objectifs stratégiques. Pour moi, une valeur est stratégique lorsque, si nous ne l'avons pas, cela risque de nous empêcher d'atteindre nos objectifs généraux. Un exemple, imaginons que l'un des objectifs généraux retenus par la direction soit de fidéliser les clients par une plus grande réactivité, par exemple un temps de réponse pour les devis, de livraison, de renseignement, et par le développement de la capacité à anticiper l'évolution des goûts et des besoins du client final. Voilà quelques valeurs d'excellence qui peuvent permettre de faciliter l'atteinte de ces objectifs, qui sont l'écoute, la réactivité, ce qu'on appelle aussi le sens du client. Dernière phase, qui est la phase 5, prévoir le dispositif permettant d'évaluer régulièrement chacun de ces paramètres. La situation est par définition mouvante, fluctuante, donc il me paraît indispensable de refaire à nouveau l'ensemble de la démarche de la phase 1 à la phase 4, au moins une fois par an. Et pour cela, il est nécessaire que vous prévoyiez dès la mise en place de la démarche quelles modalités vous choisissez pour cette réévaluation régulière. Ces modalités devront intégrer, là aussi, le qui, le quoi, le quand, le comment, le où, etc.